maintenant essayer de vous dire, finalement, comme chrétien, comment on peut penser, enfin, qu'est-ce que la Bible, la tradition chrétienne nous dit du corps et comment ça peut nous aider, nous, aujourd'hui, concrètement, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétien, dans notre vie de tous les jours. Alors l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire la conception de l'homme comme chrétien, c'est une anthropologie unitaire, c'est-à-dire qu'elle ne dissocie pas le corps de l'esprit. Si on revient au fondement biblique, je ne suis pas spécialiste de l'hébreu, mais j'en ai fait un petit peu dans mes études de théologie. Si on reprend les textes bibliques, et notamment la Genèse, là je vous ai mis un tableau de Chagall sur la création de l'homme. L'homme, il est créé à partir de la terre et du souffle de vie. Et dans la Bible, la chair et le souffle, ça va ensemble. Voilà, il y a une approche unifiée. Le corps est esprit, le corps est souffle. Voilà. Pour la Bible, le corps est souffle. L'anthropologie biblique, elle nous dit que notre corps est animé d'un souffle et que l'être humain, il est destiné finalement à louer Dieu par tout son corps et tous ses gestes. Quand j'avais fait tout un travail là sur la danse, j'avais regardé dans la Bible ce que la Bible dit de la danse, et je vous ai mis là l'épisode de David qui danse, peut-être que vous le connaissez. Vous pouvez aussi repenser à quand les Hébreux traversent la mer Rouge, voilà, après cet épisode de sortie d'Égypte, qu'est-ce que fait Myriam? Et les femmes, elles vont chanter et tout le monde va danser. Voilà. Vous voyez, dans la Bible, si vous lisez les psaumes, la louange, elle s'exprime au plus haut point par le corps, voilà, par la danse. Et quand Jésus guérit des malades, guérit un boiteux, il bondit. Voilà. Donc la présence de Dieu dans nos vies, c'est l'homme en mouvement. Voilà. C'est l'homme en mouvement. Et celui qui est guéri, il se relève. Hein, on avait, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans la liturgie, là, chez Marc, Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre qui était couchée dans son lit. Qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle est guérie? Elle se lève et elle va les servir. Voilà. Et à chaque fois, c'est ça, vous pourrez regarder l'évangile, ça met en mouvement, on se lève, le geste de la résurrection, voilà, c'est se lever. Et la danse, elle est comme au plus haut point ce qui peut exprimer la louange de l'homme qui reconnaît qu'il est sauvé par Dieu. Voilà, c'est très intéressant. La Bible, elle nous dit que notre corps, il est fait pour la vie avec Dieu et avec les autres. Dans la Bible, le corps n'est ni méprisé, ni sacralisé, mais il est présenté comme le lieu de l'alliance. Hein, vous savez, la catégorie la plus fondamentale qui traverse toute la Bible, on peut dire c'est la catégorie de l'alliance. Dieu vient faire alliance avec nous. Et l'image de l'alliance entre l'homme et la femme, c'est l'image de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc nous, comme chrétiens, nous avons à réaliser et essayer de vivre notre corps comme le lieu de l'alliance. Un corps fait pour la relation, mais du coup, qui est aussi le lieu du combat entre la mort et la vie. On voit aussi dans la Bible que le corps, ça peut être le lieu de la perversion. Relisez l'histoire du péché de David. Donc le salut, il est manifesté dans et à travers le corps, mais ce qui peut être au plus haut point le lieu d'expérience du salut peut aussi être le lieu, de la perversion. Vous voyez ce qui se passe avec Hérode, Hérodiade, au moment de la mort de Jean-Baptiste. Hein. Le corps, ça nous fait prendre conscience que nous aussi, quel usage on fait de notre corps, comment on l'habite. On peut utiliser, enfin, le terme utilisé n'est pas bon, mais notre corps peut, dans ce que nous vivons avec notre corps, ça peut nous faire grandir vers la vie, ou au contraire, ça peut nous détruire. Et vous avez, malheureusement, on sait que certains vont essayer de se détruire par l'alcool, par la blessure du corps, voilà. Mais nous avons foi en la résurrection des corps. Voilà. Donc à la fois comme chrétiens, nous sommes invités à être pleinement dans notre corps, à vivre de notre corps, et en même temps, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Voilà, notre corps n'est pas le tout de notre vie. Vous avez, alors je ne suis pas une spécialiste, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller découvrir ou creuser. Hein, vous le savez, Jean-Paul II a déployé tout un travail, enfin toute une approche qu'on appelle la théologie du corps, où il nous montre comment la sexualité humaine, qui a pour vocation l'amour fécond, qui est faite de dons et de communion, la sexualité à travers le corps est le signe visible du mystère de Dieu, insondable communion divine des personnes. Et la rencontre entre l'homme et la femme dans le mariage, l'expérience de communion qui peut se vivre, y compris à travers le corps, est comme une image de la communion à laquelle nous sommes tous appelés en Dieu. Donc vous voyez, ça donne, Jean-Paul II a eu le mérite de remettre très fortement l'accent sur la beauté, je dirais, et le sens profond du corps à travers sa théologie du corps. Voilà. Donc tout ça nous invite, on n'a jamais fini d'avoir un juste rapport au corps, c'est tout un chemin, c'est le chemin de toute une vie. Habiter son corps comme chrétien, je crois que c'est faire l'expérience que notre corps, c'est plus que simplement de la peau, des os, des cellules. Il y a une profondeur du corps, une intériorité charnelle. Pour nous, chrétiens, on ne peut pas séparer l'intériorité et l'extériorité. Vous avez tous rencontré peut-être, je ne sais pas, un vieux moine ou une vieille personne âgée qui a peut-être un corps tout abîmé, mais qui rayonne d'une beauté intérieure qui s'exprime dans le regard, dans le visage. Pour nous, chrétiens, il y a un lien, je dirais, entre l'intériorité et notre apparence. Ce n'est pas qu'une apparence de peau, vous voyez, c'est le reflet de notre vie intérieure aussi. Hein. Le corps est le visage de l'âme. Peut-être vous avez vu, je viens de lire un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Cheng, un très grand romancier, poète, écrivain. Il a écrit ce petit bijou qui s'appelle « De l'âme », dans lequel il réfléchit hein, sur la question de l'âme, mais forcément en rapport avec le corps et l'esprit. Et il nous dit « Corps et âme sont solidaires, c'est une évidence ». Sans âme, le corps n'est pas animé. Sans corps, l'âme n'est pas incarnée. Et puis il cite un peu plus loin une phrase d'Hildegard de Bingen qui nous dit « Le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. » Voilà, c'est très beau. « Le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. » C'est quand même incroyable parce que je pense qu'on n'a jamais fini de réaliser et d'accueillir pleinement ce qu'est le mystère de l'incarnation. Notre Dieu, on a fêté Noël il n'y a pas longtemps, le Verbe s'est fait chair. Adolphe Guéché, qui a écrit un très bon article qui s'appelle « L'invention chrétienne du corps », nous dit « Dieu nous vient par la chair ». En régime chrétien, le plus charnel et le plus spirituel, et le plus spirituel se vit dans la chair. Voilà, le corps et la matière sont chemin vers Dieu. Le Verbe nous vient, c'est quand même incroyable, on n'a jamais fini d'accueillir ce mystère du Verbe qui prend corps, voilà, qui prend corps. La parole en Marie devient Verbe et prend chair. Ça nous invite à regarder la chair, le corps de l'autre, comme la présence même du Christ. D'ailleurs, ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce qu'on réalise, quand on rencontre l'autre, que son corps soit magnifique ou soit très laid, déformé ou au contraire, il est le visage, il est présence, reflet du Christ. Nous sommes un sujet corporel dans le monde et notre corps est le lieu de notre rapport au monde et aux autres. Il n'y a pas de relation à l'autre qui ne passe par le corps. Je est un corps, je ne peux pas dire je, voilà, sans une bouche, sans une langue, sans un corps. Et tout l'approche de la philosophie moderne, notamment de la phénoménologie, hein, vous avez des gens comme Merleau-Ponty, Lévinas qui ont beaucoup travaillé là-dessus, nous disent que le corps et le monde se constituent réciproquement comme dans un entrelac, c'est-à-dire dans une interaction. Il n'y a pas de corps sans espace. D'ailleurs, je ne prends pas conscience du corps de l'autre sans que ça soit l'espace qui me fasse surgir le corps de l'autre. Voyez. Donc, mon esprit se déploie dans l'espace à travers le corps et par le corps. On pourrait dire finalement le corps et l'esprit sont comme les deux facettes d'une même médaille. Voyez. Du coup, le corps est pour nous le lieu et le moyen de communication avec tout ce qui nous entoure. Par tous nos sens, nous sommes en relation avec l'air, avec l'espace, avec la lumière. Et d'ailleurs, si vous allez, entre autres pour ça que j'aime beaucoup le bateau et la voile, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, au bureau, dans le métro et tout ça, parfois on peut oublier son corps. Mais si vous allez naviguer sur un bateau, c'est tous vos sens qui sont impliqués. Il faut regarder, on sent l'air, voilà. On a besoin peut-être parfois de reprendre conscience, et notamment par des exercices qui peuvent nous inviter à mieux sentir, goûter, toucher. Je crois que la prochaine fois avec un parfumeur, vous ferez des exercices pour sentir le parfum. C'est par nos sens que nous appréhendons le monde et que nous entrons en relation. Notre corps, en fait, est un langage. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé un peu sur les questions de communication, on a l'impression parfois, alors bien sûr, c'est très important de ne pas raconter n'importe quoi, mais dans ce que je suis en train de vous dire, voilà, ce que vous recevez de moi aujourd'hui et de ma parole, en fait, il y a à peine 7% qui vient des mots et du contenu. L'essentiel de ce que je vous transmets ce soir, c'est à travers du langage non-verbal. C'est par mon corps, par mes gestes. Et quand, si vous allez parfois comme votre curé qui se retrouve régulièrement sur les plateaux télé, il a dû apprendre que l'essentiel de ce que vous transmettez à la télévision, alors c'est pas pour dire qu'il faut raconter n'importe quoi, mais en fait ça passe d'abord par votre sourire, par votre présence, par votre vêtement, voilà. Donc ça c'est très important d'en avoir conscience parce que on l'oublie souvent quand on est en situation de transmission, que l'essentiel en fait il passe aussi par nos gestes, par notre corps. Et ça se travaille aussi ça. Notre corps est une parole parlante. Peut-être vous avez entendu parler de l'histoire d'Hélène Keller, qui était sourde, muette et aveugle. Et il y a un passage très très beau dans son histoire où on lui fait découvrir ce qu'est la danse en touchant, en enlaçant le corps d'une grande danseuse qui s'appelait Merce Cunningham. Et sa réaction, c'est de dire « c'est comme la pensée ». Voilà. Elle a tout capté d'une certaine manière. Voilà. Donc, je dirais, comme chrétiens, nous sommes invités à habiter notre corps tout en habitant le monde. D'ailleurs, vous remarquerez, les gens, souvent, qui sont très brutaux avec leur environnement, ils sont aussi souvent très brutaux avec eux-mêmes et avec leur corps. Ça va souvent ensemble. Le corps, pour nous, est fait pour l'échange. C'est un lieu de signification et de déchiffrement. Ça nous invite à prendre conscience de la force et du poids des gestes. Et là aussi, si vous relisez la Bible, les évangiles, quand Jésus a voulu, dans son dernier repas, transmettre le cœur du cœur de son message, l'essentiel, voulant dire qu'il donne sa vie pour ses disciples, comment il l'a fait? Il a parlé, mais il a pas fait que parler. Qu'est-ce qu'il a fait au dernier repas? Alors, il a partagé le pain, ou selon la version de Jean, il a fait le lavage des pieds. Donc on voit bien, c'est-à-dire son discours d'adieu, d'une certaine manière, hein, où il va transmettre le cœur de son message, il le fait aussi par des gestes. Voilà, notre corps est animé, ça va ensemble, on ne peut pas dissocier le corps, l'âme et l'esprit, même si c'est comme trois manières de regarder l'être. Nous sommes un, et nous avons à devenir toujours plus unifiés entre notre corps, notre esprit et notre âme. Et le chemin pour ça, il est, vous voyez bien, un chemin entre maîtrise et non-maîtrise. Par la 16, par le sportif, il passe du jour au lendemain, il ne va pas devenir un grand tennisman. Il y a tout un apprentissage, une technique. Plus je fais des exercices, plus je vais devenir bon. Si je n'ai jamais fait de danse, au départ je suis très raide, et puis à force d'exercice, voilà. Donc on peut faire quelque chose sur son corps. Alors, d'une certaine manière, on peut le façonner, on peut l'exercer. Mais en même temps, c'est une illusion de croire qu'on peut tout maîtriser. Voilà, il y a aussi une forme de démaîtrise. Et donc le chemin chrétien par rapport au corps, il est aussi l'apprentissage de la démaîtrise. Et c'est pas si simple. Parce que tout n'est pas de l'ordre de la maîtrise rationnelle par rapport à notre corps, par rapport à la sexualité. Le corps, pour un chrétien, je reprends les phrases de saint Paul que vous connaissez sans doute, c'est le temple de l'esprit. La vocation chrétienne du corps, c'est de rendre visible l'invisible. On pourrait dire d'être le temple de l'esprit, de devenir parole de la parole. Notre Dieu aujourd'hui, pour parler au monde et à nos contemporains, il n'a pas d'autre main que les nôtres, il n'a pas d'autre bouche que la nôtre, il n'a pas d'autre visage, il n'a pas d'autre corps que le corps de son Église et le corps de chaque baptisé. Ainsi, comme le dit le cardinal Martini, notre corps, dans son intégralité de chair et d'esprit, est destiné à être le miroir de la beauté divine. Nous sommes invités par notre corps à donner corps à l'Esprit de Dieu pour le transmettre. C'est ça l'incarnation. Depuis la résurrection, depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu nous est donné pour donner visage ensemble, devenir ensemble en Église, corps du Christ. Alors tout ce chemin, on le voit bien, c'est pas si inné que ça, et vos questions les plus nombreuses tournaient autour des questions d'éducation. Je vous invite, et on sait que dans l'éducation, vous voyez, on travaille beaucoup ça actuellement sur les questions qu'on appelle EARS, éducation affective, relationnelle et sexuelle. Si on veut éduquer les jeunes à une juste relation, à une juste relation à leur corps, à la sexualité, ça passe aussi par nous. C'est-à-dire que je ne peux pas éduquer les jeunes là-dessus si moi-même, je ne fais pas un chemin par rapport à ça ou je ne m'ajuste pas par rapport à ça. Pour éduquer les autres, il faut chacun, chaque jour après jour, continuer un chemin de conversion et de travail, je dirais, intérieur. Parce que vous le savez, encore plus aujourd'hui, les jeunes, ils voient bien, ce qui leur parle, c'est la cohérence. Je peux leur faire des grands discours très théoriques ou très idéalistes, et c'est bien, il faut leur donner le cap, le chemin. Mais si derrière je mène une vie complètement contraire à ce que je leur raconte, c'est pas comme ça que l'éducation va se faire. Voilà. Et en même temps, on a tous des histoires cas à cas, blessés. Personne n'est parfait sur ce chemin du corps. Le langage du corps, nous dit l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, vous savez, qui est sortie après les deux synodes sur la famille, il y a un chapitre entier sur l'éducation qui aborde cette question-là et qui nous dit « Le langage du corps exige l'apprentissage patient qui permet d'interpréter et d'éduquer ses propres désirs pour se donner réellement. » En fait, l'enjeu, c'est d'éduquer les jeunes à l'apprentissage du don, et du don total qui va jusqu'au don de soi envers l'autre dans le mariage, ou au don total de soi dans une vie consacrée ou une vie de prêtre célibataire. L'éducation sexuelle, nous dit le pape François dans La joie de l'amour, doit aider à accepter son propre corps. C'est tout un chemin, c'est pas d'emblée, c'est pas si simple. Et c'est toute la vie qu'on a à apprendre à accueillir, accepter, assumer son corps. Alors la vie spirituelle, je dirais aussi la vie sacramentelle, parce que dans l'Église, les sacrements nous sont donnés justement. Un sacrement, ça se joue dans le corps. Ça passe par des signes, le baptême, le signe de l'huile. L'expérience spirituelle chrétienne se joue dans le plus charnel, le plus incarné, jointure de la parole et du geste. Pour qu'il y ait sacrement, il y a besoin de la parole et du geste. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, dans tous les épisodes bibliques importants, Dieu se manifeste dans une parole qui est tout autant geste. Ce à quoi nous sommes appelés comme chrétiens, comme je vous le disais, c'est un chemin d'unification. En fait, on est traversé de combats intérieurs, de désirs contradictoires parfois, d'être unifié corps, âme, esprit, c'est pas si simple. D'ailleurs, il y a ce proverbe qui dit le corps a ses raisons que non, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous voyez, c'est pas si simple. On vit aussi des contradictions parfois entre sa raison et son corps. Je crois que c'est très important et ça revient à un certain nombre de questions que vous avez posées aussi. Écouter son corps et en prendre soin. Et peut-être que on ne peut pas prendre bien soin des autres, prendre soin aussi de la planète, de la création, si on ne prend pas d'abord soin de son corps, non pas d'une manière narcissique pour avoir un joli corps, mais simplement parce que pour être en relation avec les autres, pour se donner le soin de notre corps, il n'est pas pour nous-mêmes, il est pour les autres, pour une vie donnée. Toute vocation est une incarnation, et le signe qu'on est sur son chemin vocationnel d'ailleurs, et qu'on progresse dans la vie spirituelle, on en voit des fruits parce que ça nous met toujours plus dans la réalité incarnée, corporelle, concrète. Si la vie spirituelle nous fait fuir dans un ailleurs hors du monde, c'est qu'il y a un problème. La vie spirituelle, tout ce que je fais, les prières, tout ça, ça me détruit parce que je ne mange plus, parce que je ne dors plus, c'est qu'il y a un problème. Alors ça arrive parfois, si vous lisez l'histoire de Saint Ignace de Loyola, après sa conversion, tout feu tu plâme, il a eu un temps où il se coupait plus les ongles, plus les cheveux, il mangeait plus, et puis au bout d'un moment il a compris avec entre guillemets l'accompagnateur spirituel qu'il allait voir que en fait c'était pas l'Esprit de Dieu qui lui demandait ça. Voilà. Donc c'est sûr qu'on a toute une tradition ascétique dans l'Église, et il n'y a pas de progrès spirituel qui ne passe par une forme d'ascèse. C'est pour ça qu'on, en carême, on a le jeûne. Mais c'est très subtil, et parfois, selon nos tempéraments, nos histoires, et c'est à bien repérer et bien discerner, on peut parfois être trop dans une ascèse qui en fait nous sort de la réalité ou ne nous construit pas, enfin nous fait pas avancer vers Dieu. Et moi je m'aperçois que parfois il faut accepter d'être dans une forme de contre-ascèse. voilà, accueillir un bon repas, prendre le temps, prendre soin de son corps. Parfois, ça peut nous être très difficile et ça peut être un vrai combat spirituel, mais le chemin pour nous de Dieu va passer par là. Je ne sais pas si vous percevez ce que j'essaye de vous dire. Voilà, parfois la meilleure ascèse, c'est d'aller dormir ou d'aller courir ou d'aller prendre un bon repas. Et en même temps, attention, à d'autres moments, ça pourrait être de jeûner. Donc vous voyez bien que pour nous chrétiens, le corps, il y a tout un enjeu spirituel. Apprendre, d'ailleurs, dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, peut-être, bon, forcément je me réfère à ma tradition spirituelle, il y a tout il y a plusieurs pages, enfin il y a tout un chapitre sur les qui s'appelle les règles pour bien s'ordonner dans la nourriture. Il se joue plein de choses dans notre rapport à la nourriture. Et alors Saint Ignace nous dit, pour bien s'ordonner dans la nourriture, il faut, quand je sors du déjeuner, prévoir ce que je vais manger le soir, à la bonne dose, parce que sinon je me laisse prendre, voilà, on peut se laisser prendre par sa passion pour la nourriture ou pour le voilà. Il y a un vrai enjeu spirituel dans notre rapport au sommeil, dans notre rapport à la nourriture. Et parfois, d'ailleurs, on le voit bien quand on accompagne des retraitants ou soi-même quand on vit un chemin spirituel, parfois ça se joue là, notre progrès spirituel. Alors je termine en vous laissant des tas de pistes possibles qui peuvent vous aider, je ne sais pas si vous arrivez à les lire, qui peuvent vous aider après, parce qu'on va laisser maintenant un petit temps de questions avant de finir. Voilà, des pistes peut-être qui peuvent vous aider à relire, à creuser cette question du corps pour vous-même. Finalement, quel est mon rapport au corps? Comment je perçois mon corps? Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce qui m'aide ou non à être bien dans mon corps? Quelles ont été les étapes et évolutions dans mon rapport au corps? Quelle importance j'accorde à mon apparence physique, à mon look, à celui des autres? Comment je prends soin de mon corps? Quelle est la place du sport dans ma vie? Comment je réagis face à la maladie, à mon corps qui souffre? Quelle place j'accorde au corps dans la prière? C'est fondamental, on prie avec son corps aussi. Et la place, enfin la manière de prier, la place du corps dans la prière est quelque chose d'important. Voilà, des pistes pour vous, que vous reprendrez ou vous reprendrez pas, qui peuvent vous aider ou pas. Pour en forme de conclusion, voilà. Pour, je vais juste terminer par ma petite conclusion parce que je prévois toujours trop, mais c'est pas grave. Je voudrais juste en conclusion vous mettre, parce que je crois qu'il peut nous inspirer, en tous les cas moi il m'inspire beaucoup, voilà, vous mettre la figure du pape François. Oui, pas seulement, mais c'est notre pape voilà, actuel, et je trouve que c'est un pape dont on sent qu'il est et il parle avec son corps, voilà. Et que c'est aussi peut-être ça qui touche quand même, il est très populaire, il rejoint beaucoup les gens, il parle avec des paroles et des gestes, il est très expressif, voilà. Il est d'Amérique latine, hein, c'est aussi sa culture, mais je crois que son... Voilà, il nous dit aussi combien l'évangélisation, ça passe par la joie, hein, la joie du témoignage, et je crois que son style missionnaire peut nous parler. En tous les cas, il est très en phase avec la culture actuelle des jeunes et de la société, vous voyez, parce qu'il est fait d'authenticité, de cohérence, de proximité, de chaleur humaine. Il nous parle beaucoup de la tendresse. Et il parle avec des paroles et des gestes qui engagent son corps. Voilà. Alors je vous laisse avec ces images-là, voilà, pour vous inviter à poursuivre le chemin et que nous le poursuivions ensemble en Église. Merci.